au mois d'août 1535, un certain marin malouin du nom de Jacques Cartier approche l'archipel de cette île. Et dans son carnet de voyage, va noter: nous vîmes cette île moult haute que nous nommâsmes les îles rondes. C'est comme ça que cette île fait son apparition dans l'historiographie universelle.
Sur la route de la côte nord. Épisode 4, Sept rivières. Les cargos dorment dans la baie de Sept-Îles, protégés par les îles de l'archipel. Ils viennent pour acheminer à travers le monde le minerai de fer et l'aluminium issus des grosses industries qui jalonnent le territoire. La ville de Sept-Îles a vécu de grands changements depuis sa naissance, passant de village de pêcheurs à la capitale nord-côtière et pôle industriel majeur. Un dessin publié dans un journal des années 1970 montre le Sept-Îles du futur imaginé par un résident, avec des gratte-ciels et un centre-ville digne d'une grande métropole. L'histoire nous racontera pourtant le contraire. Du côté des communautés autochtones, les festivals, les musées et les rassemblements à Ouachat Makmanyutenam participent à la redécouverte de la culture Innu par les Innu eux-mêmes, longtemps coupés de leur patrimoine. Musique, langue et tradition sont vivantes, ce qui fait de la région de Sept-Rivières le berceau de la culture Innu. Aujourd'hui, la ville de Sept-Îles rassemble la communauté Innu de Ouachat Makmanyutenam, dont l'ancrage culturel est soigneusement protégé par l'Institut Tchakapesh.
Empruntez route 138 en direction de Rivière-Pentecôte.
D'abord fréquenté comme lieu de pêche, Rivière-Pentecôte devient un village forestier quand les frères Gagnon de Québec y fondent une scierie en 1883. À la fin du 19e siècle, la scierie procure de l'emploi à une centaine de travailleurs, dont plusieurs proviennent de la Mingani. En 1903, la Sherbrooke Lumber Company rachète les concessions des Gagnon et transforme l'usine pour y écorcer du bois à pâte. Plus de 300 travailleurs des îles de la Madeleine, de la Gaspésie et du Labrador y sont engagés. Mais les activités forestières déclineront par la suite. Le village de Pentecôte est aujourd'hui un havre paisible au panorama spectaculaire, niché entre mer, plages, rivières et forêts. L'église Saint-Patrice, qui a célébré ses 130 ans en 2017, et son oratoire dédié à Sainte-Anne, vous ouvrent leurs portes.
Pointe aux Anglais.
Ayant pour mission de conquérir la ville de Québec et de faire tomber la Nouvelle-France au profit des Anglais, Sir Ovenden Walker se dirige vers Québec avec sa flotte. Elle se compose de 9 vaisseaux de guerre, de 2 galiotes à bombes et d'une soixantaine de navires servant au transport de troupes. Dans la nuit du 22 août 1711, 8 de ces vaisseaux ne peuvent résister à une violente tempête et s'écrasent sur les récifs émergents entre l'île aux œufs et la côte, vers l'est. La tragédie cause le décès de plus de 800 personnes et met un terme à l'expédition. Un toponyme né, pointe aux Anglais, rappelant le pire naufrage qu'ait connu la côte nord. La petite colonie française d'Amérique du Nord put y survivre encore un demi-siècle.
Continuez sur route 138 en direction de Port-Cartier.
Le village de Shelter Bay est fondé en 1916 au lieu-dit Rivière-aux-Rochers, par l'illustre colonel Robert McCormick, propriétaire du Chicago Tribune. Il y fait installer une scierie pour alimenter ses usines de pâte et papier, ainsi qu'une usine d'écorçage sous la gouverne de la Ontario Paper Company. En 1957, la Québec Cartier Mining amorce l'exploitation de la mine de fer du lac Janine, à 300 km au nord de la côte, créant de toutes pièces la ville de Gagnon. Les infrastructures portuaires nécessaires à l'expédition de ce minerai transforment Shelter Bay, renommé Port-Cartier, en 1959. En 1974, le chemin de fer est prolongé afin d'atteindre le gisement du Mont Wright, près duquel apparaît Fermont. Les récentes exploitations du lac Bloom, dans ce même secteur, n'ont fait qu'accroître l'importance de Port-Cartier sur l'échiquier industriel international. Située au nord de la ville de Port-Cartier, la réserve faunique de Port-Cartier-Sept-Îles offre aux amateurs de plein air un territoire immense aux paysages grandioses et une qualité de pêche à la truite mouchetée exceptionnelle sur d'innombrables lacs. On peut aussi y taquiner le saumon sur les rivières aux Rochers et McDonald's. Le canotage, le kayak et la randonnée pédestre y sont proposés, dont celle menant à l'impressionnante passerelle d'accès à la chute McDonald's. L'hébergement y est possible en chalet ou en camping. La réserve faunique abrite le désormais célèbre lac Walker. De forme très élancée, long d'environ 30 km par 4 km de large et entouré de parois rocheuses hautement accidentées, on a établi sa profondeur à 280 mètres, ce qui en fait le lac le plus profond du Québec.
Avant d'arriver à Sept-Îles, faites une petite halte à Clark City.
C'est en 1898 que les frères William, James, John et George Clark optent pour l'embouchure de la rivière Sainte-Marguerite afin d'y établir une usine de production de pulpe. La rivière fournit l'énergie nécessaire grâce à un barrage. Elle permet le flottage du bois et donne accès à l'arrière-pays aux forêts encore inexploitées. L'usine fournira du papier à leur maison d'édition située à Toronto et à New York. Un petit village moderne et électrifié s'organise donc autour des infrastructures industrielles de Clark City. L'usine connut diverses adaptations technologiques entre sa mise en fonction au début des années 1900 et sa fermeture en 1967, et elle contribua largement au développement social, industriel et économique de cette île.
Continuez sur route 138 en direction de cette île.
On vient d'arriver à la pointe de Moisy. C'est un endroit assez idyllique. Et on a devant les yeux, en fait, le dernier kilomètre du parcours de la rivière Moisy pour rejoindre le golfe Saint-Laurent. Le décor devant nos yeux, bien, c'est une plaine relativement basse qui borde la Moisy, mais elle est très large. Elle fait plus d'un kilomètre à son embouchure. On est à marée basse, on voit les bancs de sable apparaître. La Moisy, son nom déjà sème le mystère. Pour les Innus, c'est la Michtachipu. C'est leur Mississippi, ça signifie la grande rivière. C'est une rivière qui a un parcours de plus de 400 km. Elle prend ses sources, entre autres, dans les lacs Ocopoco, tout près de la frontière du Labrador. Mais elle ouvre sur un réseau extraordinairement vaste, un bassin versant de près de 20 000 km². C'est la pêche qui l'a rendue célèbre, une des plus grandes rivières à saumon au monde. Les Innus ont su en vivre de façon écologique, ce qui fait que, aujourd'hui encore, des pêcheurs viennent de partout pour y taquiner le saumon. Et ce qui est magique, c'est que tout ce territoire-là est intact. La rivière Moisy n'a jamais été harnachée, Elle n'a jamais connu là, de développement industriel forestier sur ses rives. C'est à peu près le même décor que Jacques Cartier a aperçu en août 1535 quand il a remonté l'embouchure avec un de ses voiliers. D'ailleurs, lui va nommer la rivière des chevaux de mer, parce que sur ces bancs de sable-là, à l'époque où lui passe, il y a une colonie de phoques communs. On en aperçoit encore à l'automne sur ce parcours-là, sur les derniers kilomètres de la rivière.
Les forges de Moisy, établies à l'embouchure est de cette célèbre rivière, constituent le premier effort de développement minier industriel sur la côte nord. Propriété de la Moisy Iron Company, elles furent fondées en 1867 par des investisseurs américains et montréalais. On y procédait au traitement du sable ferrugineux, récolté sur les plages, afin de le fondre sous forme de barres, vendues sur le marché américain. À son apogée, le village des Forges regroupait près de 400 habitants. Cependant, suite à la hausse des tarifs douaniers américains, les Forges durent fermer en 1875, entraînant du même coup l'abandon du village. Plusieurs familles déménagèrent alors du côté ouest de la rivière.
La grande région de cette île, c'était le territoire des Innus, évidemment. Il y avait une bande qui parcourait la Sainte-Marguerite, un peu à l'ouest, une bande qui parcourait la rivière Moisy. On a affaire à des groupes nomades. Ce qui domine, c'est la survie des familles. Et là, la motivation ou le rêve premier, c'est d'apercevoir les caribous. Parce qu'on s'en nourrit, on utilise à peu près tout ce que le caribou a à offrir dans la culture matérielle. Que ce soit pour se fabriquer une pelle avec l'omoplate, pour récupérer la moelle dans les ossements, pour façonner le teawagan, le tambour innu, avec le cuir des jeunes caribous.
Et le teawagan, c'est vraiment le tambour innu qu'on appelle. C'est le seul objet qui n'a pas été saisi par le clergé, le gouvernement dans le temps, parce que eux autres, ils pensaient tout simplement que c'était un objet de percussion. Donc, ils ne l'ont pas classé dans les objets spirituels, au même titre que le Ushpuagan, la pipe, au même titre que les Shijiwan, les Hochets, au même titre que tous les autres objets qu'on a. Le Teawagan, c'est une connexion dans l'au-delà. La connexion se fait vers le cosmos, parce que tu as le trépied qui te remet de même, et tu as tes pieds qui te relie à la terre-mère. Le teawagan, j'ai envie de vous le montrer d'ailleurs. La manière qu'il est fait. C'est vraiment quelque chose. Ça, c'est fait en peau de caribou. Le frame, c'est du bouleau. Ici, c'est des empennes de plumes. On en voit ici et on en voit ici. C'est un peu l'histoire du teawagan.
Au printemps, c'est le grand signal qui nous ramène vers la côte. Certaines familles sont à 600-700 km de la côte. C'est une épopée extraordinaire, année après année, de parcourir le territoire et vers le nord et vers le sud. En juin, on rejoint la côte. Et cette période-là, pour les Innus, en est une de bien-être. Parce qu'il y a une abondance de ressources à ce moment-là. Les outardes se sont pointées déjà sur leur parcours. Des dizaines d'espèces de sauvagines dans les estuaires de rivières. La truite de mer commence à remonter les cours d'eau. Le saumon, évidemment. Le caplan roule sur les plages à cette période-là. Il y a du phoque. Il y a différentes espèces de phoques. Les Français apparaissent dans le décor, dans un contexte économique. Ça nous renvoie au commerce des fourrures. On va voir s'établir, autour de 1670, le premier poste de traite dans la grande baie de Sept-Îles. C'est un lieu touristique connu à Sept-Îles, le Vieux Poste. L'histoire du Vieux Poste, elle couvre à peu près 150 ans. Les premières décennies du poste sont sous la gouverne de marchands français, entre autres le fameux explorateur Louis Joliette. On l'a récompensé de ses explorations sur le Mississippi en compagnie du jésuite Marquette. On lui a donné des droits de commerce sur la côte nord, entre autres au vieux poste de cette île. En 1759, le poste sera complètement détruit par les troupes de Wolfe, les Anglais, qui remontent tranquillement vers Québec. Une bataille réussie pour les Anglais et un échec pour la Nouvelle-France. Mais rapidement, parce que les Innus avaient pris l'habitude de fréquenter le poste, dès 1761, un nouveau poste est accessible jusqu'aux années 1830 où la puissante compagnie de la baie du Tson prend contrôle non seulement du poste de cette île, mais d'un grand réseau de postes qui couvrait là, presque toute la côte nord. Fondée en 1670, hein, c'est tout à fait anglais tout ça, la compagnie de la baie du Tson agit presque en roi et maître sur le territoire. Jusqu'aux années 1870, cette île est une mission religieuse et un poste de traite. Il va falloir attendre la fin du monopole d'occupation des terres par la compagnie de la baie du Tson pour voir une grande partie de la côte nord se peupler. Et là, on va voir rapidement de petits villages se fonder. On a affaire à des gens soit des îles de la Madeleine, soit de la Gaspésie. Au tournant des années 1900, il y a une cinquantaine de familles établies à cette île sur deux petites rues. Population qui double à l'arrivée des Innus au printemps pour la grande mission d'été. Cette île, la ville n'occupe pas les îles. La ville de cette île borde la baie dans laquelle se retrouvent sept îles principales. L'île Petite Boule, l'île Grosse Boule, la Grande et la Petite Basque, la Manoine, la Corossol, les îlets de Quin. Ces îles-là servent d'abord et avant tout, à une époque ancienne, de lieux de pêche. Les Innus y traversent pour la chasse aux phoques, pour la chasse aux canards. Les Basques vont y passer. La Grande et la Petite Basque nous renvoient à la présence de trois frères d'origine basque, les frères d'Aragori. Une pêche artisanale qui résulte en la capture d'une quinzaine de baleines, peut-être, par saison. Manoine, on devine tout de suite une appellation Innu. C'est un endroit où on récolte les œufs. Autant sur l'île Manoine que Corossol, on retrouve des lieux de nidification importants de différentes espèces de marmettes, goélands, mouettes, les éiders aussi. Donc, c'était un garde-manger. Dans la région qu'on nomme Sept Rivières, l'industrie fait ses premiers pas au début du 20e siècle. On aborde ici le cas de Shelter Bay qui va devenir Port-Cartier. Les familles pionnières, hein, les familles d'origine acadienne, gaspésienne surtout, les Innus évidemment, vont voir arriver par milliers des gens de partout, du Nouveau-Brunswick, du Bas-Saint-Laurent, de toutes les régions du Québec, de l'Europe aussi, pour participer à leur façon au méga chantier de l'exploitation du fer. Un des côtés un peu plus tristes de cette poussée industrielle-là, c'est de voir disparaître le sept-îles traditionnel. Le sept-îles de bord de mer avec ses bâtiments, ses hangars, ses quais. Les dernières traces du village de pêche de cette île se retrouvent évidemment sur les premières rues de bord de mer. Sinon, ce qui domine, c'est une architecture qui nous renvoie directement à la grande vitesse à laquelle s'est développée la ville, justement, dans les années 60-70. Le sept-îles des années 60, c'est un peu une période d'années folles, d'années fastes, de gros salaires. Il y avait un côté wild au sept-îles du boom économique. On a presque à chaque parution du journal hebdomadaire à l'époque des mentions de bagarres dans les tavernes, dans les bars. Tout ça faisait en sorte que dans le bas de la ville à sept-îles, ça pouvait jouer dur, au dire de gens qui ont connu cette période-là. La Côte-Nord va subir dans les années 80 un un drame économique. C'est la fermeture des installations minières à Schefferville. Schefferville et cette île sont liées au point de vue de l'industrie. On va voir la ville se vider de milliers de personnes. Ça a été les années les plus difficiles que cette île ait connues, là, de 81 à fin des années 80. Et c'est un peu, si on veut, la fondation de l'aluminerie qui va redonner un souffle, une vigueur économique, non seulement à cette île, là, mais à la grande région qui l'entoure.
Quand j'ai commencé l'école, je ne parlais pas du tout français. Il y a eu un pensionnat à Ballyoutenam. Et là-dedans, j'ai été pensionnaire pendant 11 ans.
Évelyne Saint-Onge, gardienne de la culture innue à Ouachat-Macmaniotenam.
Au pensionnat, on était à peu près 300 élèves de différentes communautés. Il y en avait de Birzimis, Mingan, Natashquan, La Romaine et Schefferville. À ce moment-là, le gouvernement avait dit à nos parents, « Amenez vos enfants, on va les garder, nous autres, puis ils pourraient chasser dans le bois, retourner. » J'ai commencé là, moi, à apprendre à lire et à parler français. On voyait très peu nos parents. Et aussi, c'était une alimentation qui était nouvelle. Il y avait beaucoup de rigueur quand même dans le pensionnat. Puis je m'éloignais de mes parents, de la langue, la culture, des techniques, tout ça. Et ça ne me semblait pas me déranger. C'est plus tard que j'ai vu ça. Plus tard, très tard dans ma vie que j'ai vu. Je réalisais là, que je possédais absolument rien dans ma culture. J'ai fait une grosse crise d'identité. Si je retourne au village, je connais absolument rien de ma culture. J'étais vraiment très, très mêlée. Et finalement, avec tout ça, on a... Moi et mon mari, on s'est séparés. Et là, je suis retournée dans mon village. Arrivée dans mon village, les Indiens me disent « Wow, toi là, tu nous as trahis, t'as marié un blanc, t'es plus une Indienne. » J'ai trouvé ça dur. Ça a été une grosse... claque que je venais d'avoir, là. Mais ça m'a donné beaucoup, beaucoup d'énergie pour montrer que j'en suis une Indienne. C'est là que je pense que l'éveil de la culture est arrivé et j'ai rencontré Philippe McKenzie, environ 10 ans de notre vie. On a toujours été en forêt. C'était toute la vie en forêt que je ne connaissais pas. C'est ça que j'étais en train d'apprendre. La vie des Innus, les valeurs aussi, tout ça. Je me suis donné une mission. À un moment donné. Parler de ma culture ou faire... Avant, tout, je l'ai appris, là, à 30 ans. Et après ça, aussitôt, je le reçois, je le redonne. Une passeuse de culture.
J'apprends beaucoup à découvrir l'Institut Agabège depuis que je suis ici. C'est un organisme qui, depuis 40 ans, déjà plus de 40 ans, qui est là aujourd'hui à travailler pour les communautés membres. Préserver la culture et nous, la langue. Les aider aussi au niveau de l'éducation, que ce soit de la documentation, des dictionnaires innus français, et des outils pédagogiques. Énormément de gens nous sollicitent à vouloir se découvrir. Dan George McKenzie, on allait dire auteur-compositeur parce que je chante la musique aussi. J'ai l'habitude de dire ça, mais je suis coordonnateur en communication de l'Institut Agabège. parlais pas beaucoup innu avant. De plus en plus, en travaillant pour l'Institut Chagabèche, comme je dis, il y a beaucoup de documentation, beaucoup d'archives, beaucoup d'informations qu'on a accès de plus en plus.
Je pense que Malio est très, très dirigé vers la culture, maintenir la culture. Inno Nikamo, c'est un festival qui se tient toujours la première fin de semaine du mois d'août. Je pense qu'il va fêter ou il a déjà fêté son 35e anniversaire. Les gens qui ont parti ça, c'est des gens qui voulaient chanter ou se faire entendre. Et si je regarde les premiers qui ont commencé ça, Florent Volant, Daniel Dessart, Jean-Luc, puis d'autres, c'était des gens qui ont cru à la relation avec l'autre, qui ont cru que par la musique, on peut se connaître ou se parler. En gros, on est fait pour vivre ensemble.
Le Caplan. On l'appelle la pêche miraculeuse. Elle a lieu en juin. On y va en plein cœur de la nuit, avec des seaux, des filets et des bottes de pluie. Le Caplan roule sur les plages par milliers, comme les vagues. C'est un petit poisson d'à peine 20 cm et pourtant si généreux. Il roule sur les plages pour pondre des œufs dans le sable. Il se sacrifie pour se reproduire. Les pêcheurs l'attrapent si facilement en remplissant des seaux sans compter. Ils s'en nourrissent ou bien le transforment en engrais à jardin. La pêche au caplan est aussi un événement qui rassemble les familles. Dans la lueur orangée des feux de plage. Sur la route de la Côte-Nord. Une production de Tourisme Côte-Nord, conçue par Magnéto. Réalisation, Daniel Capeille et Nicolas Lachapelle. Prise de son, montage et mixage, Daniel Capeille. Narration, Héloïse de Merspinard. Musique originale, Mehdi Cayenne. Direction de production, Alexandra Villot. Recherche, Société historique de la Côte-Nord. avec la participation du ministère du Tourisme et la MRC de Sept-Rivières. Avec, dans ce quatrième épisode, Steve Dubreuil, anthropologue et archéologue, Grégoire Canapé, guide spirituel Innu, Evelyne Saint-Onge, gardienne de la culture Innu, Dan-George Mackenzie, musicien et coordonnateur aux communications de l'Institut Tchakapèche. Poursuivez la route avec nous dans les prochains épisodes.